Paso doble.
Paso doble.
Mardi, expo.
Bonjour tout le monde, mes deux invités. Ce matin, Céline Chicha-Castex et Alexandre Deveau sont les commissaires de l'exposition « Le monde selon Topor ». C'est à la bibliothèque François Mitterrand à Paris jusqu'au 16 juillet. Il y a tout juste 20 ans disparaissait Roland Topor et peut-être avec lui disparaissait aussi un certain esprit français. Artiste prolifique, Roland Topor touche à tout inspiré, on a tout dit, sur le Topor dessinateur, romancier, homme de télé, de théâtre, l'humoriste subversif, bien sûr. Mais cette fois-ci, on a tous ses travaux réunis. Il était d'abord un rêveur, dit de lui son ami Jean-Michel Ribes. Lui, il préférait se définir comme un sacré déconneur. Et vous qui avez organisé cette exposition, qui avez travaillé sur l'œuvre de Topor, Céline Chicha-Castex et Alexandre Deveau, s'il fallait le définir Topor.
Mais lui-même se définissait comme déconneur, mais pas comme un sacré déconneur, puisqu'il avait une sorte de phobie du sacré.
Ouais.
Donc c'était plutôt la déconne et le jeu. En fait, il prenait au sérieux le jeu, comme les enfants... quand ils s'amusent à inventer des choses et que c'est une affaire très sérieuse pour eux, bah, Topor avait gardé cette espèce d'hyper-créativité de l'enfance en la prenant au sérieux avec en plus la culture et toute cette gourmandise littéraire et artistique qu'il avait acquise au fil des ans.
Céline Chicha-Castex, est-ce que c'est un enfant de son époque ou c'est un enfant qui s'est formé contre son époque, Roland Topor ?
Ah, c'est un enfant de son époque. Enfin, là, il a été très marqué par son enfance. Il était issu d'une famille de juifs polonais et né en 38, évidemment, pendant la guerre. La famille a été inquiétée, a été obligée de se réfugier en Savoie. Et cette obligation pour cet enfant d'avoir été obligé de cacher son identité, d'avoir vécu dans la peur toutes ces années de guerre, a évidemment imprégné tout son univers. Et même s'il ne s'exprime pas directement à travers ses dessins, à travers ses œuvres, sur cet épisode, ça imprègne vraiment tout son travail. Donc l'enfance est vraiment très très présente.
Il est souvent question de sexe, de mort, de violence dans l'œuvre de Topor. C'est l'humour grinçant, absurde, insolite. Je crois qu'il a eu même du mal à le décrocher, ce grand prix de l'humour noir en 1961, tellement qu'il était incompris, tellement qu'il mettait mal à l'aise les gens en même temps tout le monde reconnaissait son talent, non?
Oui, précisément son talent a d'abord été reconnu par les amateurs d'humour noir. Et humour noir et humour absurde. Mm-hmm. Après, je voudrais revenir sur vous aviez utilisé l'esprit français de Topor tout à l'heure, et ça fait penser aussi à l'expo à la Maison Rouge, l'esprit français, dans laquelle Topor est aussi
présent. Présent. Il a toute sa place d'ailleurs.
Mais si Topor est un esprit français, la France peut remercier Topor d'avoir eu un esprit tel que le sien. Topor se définissait plus comme parisien que comme français, et je pense qu'il aimait à Paris cette culture cosmopolite. Après, s'il y a un esprit français, je pense qu'il s'en méfiait plutôt. Je pense c'est l'ambiguïté de ce qui serait français ou pas, surtout au moment de l'après-guerre. Il y a une culture française qui est énorme, Topor l'a assimilée, mais il a une culture qui est beaucoup plus large que la seule culture française, et il a apporté à la culture française toute l'étendue de sa culture qui est internationale, quoi. Il est complètement cosmopolite. Grosse culture américaine, d'Europe centrale aussi, d'Afrique. Sa sœur était anthropologue en Afrique. Il a beaucoup appris de sa sœur aussi. Donc il a une culture énorme, Topor, multicontinentale, quoi.
Alors, si on vous parlait maintenant du style, justement, et de ses influences, de cette veine surréaliste, on en a beaucoup parlé, de ses personnages à la Jérôme Bosch, on a parlé aussi de ses techniques de hachures qui mettaient en évidence et qui peut-être font écho à la vie, à sa propre histoire. Vous en parliez, Céline Chicha-Castex.
Oui, c'est un artiste qui a un style assez assez classique. Il justement, vous parliez de cette technique de hachure qui lui vient probablement de son apprentissage de la gravure. Il a fréquenté l'école des beaux-arts, à vrai dire. Manifestement, il fréquentait plus les cafés alentours, mais il a tout de même été très assidu au cours de son maître de gravure Édouard Goerg, qui lui a appris les techniques de gravure et qui lui a aussi appris la force de l'image imprimée, qui est également une constante dans son œuvre. Son style plastiquement est classique, mais évidemment l'imaginaire qu'il développe est très original, bien qu'effectivement il se réfère à une tradition surréaliste, une tradition qui déborde le cadre du surréalisme historique, qui peut effectivement, comme vous le disiez, remonter à Jérôme Bosch, à Bruegel. Il a beaucoup regardé aussi des ouvrages d'illustration du 19e siècle. Il est imprégné vraiment par toute cette culture de l'illustration. Son père était un érudit, il l'emmenait aussi beaucoup au musée, donc il s'est vraiment imprégné de toute cette culture fantastique, très influencé aussi par le surréalisme belge, par Magritte, par James Ensor, et c'est quelque chose effectivement qu'il reprend un petit peu dans son œuvre en abordant ses obsessions personnelles.
Avec le recul, 20 ans après sa disparition, est-ce qu'on peut parler de plusieurs topores ou de plusieurs périodes de Roland Topor dans l'art, que ce soit en tant que dessinateur, romancier, metteur en scène, ou se mettant lui-même en scène dans ses interviews, qui restent quand même, elles aussi, des pièces d'art. On peut parler aussi de comment il s'est investi et dans la presse et à la télévision. Est-ce que tout ce topor-là peut se résumer en un seul esprit qui aurait évolué avec le temps, ou est-ce qu'il y a eu des ruptures, des nouveautés, des renoncements, des découvertes au fil des ans, c'est-à-dire de la fin des années 50 jusqu'à sa mort en 1997?
Non, ce qui est assez étonnant, c'est la régularité de l'œuvre de Topor. Alors, il aimait bien se définir, puis même reprendre un peu le terme qu'avait créé Spoerry, son ami Daniel Spoerry, en art, de le multiple. Et il aimait bien l'idée de multiple, c'est-à-dire d'avoir une activité multiple. Donc ici, il peut y avoir des périodes différentes dans son œuvre, mais il y a surtout des activités différentes. Et quand il commence à se faire connaître par le dessin dans la presse, le dessin d'humour dans la presse, et c'est une activité qu'il va garder tout au long de sa carrière, quoi. Même si après il en fera moins. Enfin, il garde une fidélité au support presse tout au long de son œuvre.
Est-ce qu'il garde l'esprit Harakiri qui lui ouvre les colonnes ?
Alors, je pense que Harakiri, ça lui a permis d'avoir un espace de liberté, un support d'exposition, de diffusion et un espace de liberté. Mais je dirais qu'Harakiri a aussi été nourri des individus qui l'ont créé. Je pense que la force d'Harakiri, c'est à la fois d'avoir existé, c'est-à-dire par l'intermédiaire de Choron et de Cavana, d'avoir donné un espace à des génies. Mais de l'autre côté, Harakiri n'aurait pas été ce qu'il a été s'il n'y avait pas eu des génies pour l'alimenter, quoi, et pour faire ce qu'il a été. Ça aurait pu être un journal qui aurait fait 3 numéros ou 10 et puis c'était terminé, parce que il n'y aurait pas eu le succès. S'il y a eu du succès, c'est aussi parce qu'il y avait le talent des gens qui emplissait ses pages, quoi.
Voilà, et on referme la parenthèse. Donc, pas de période, mais plusieurs entrées dans l'univers de Roland Topor.
Voilà, il y a plusieurs entrées. Il y a une entrée, on peut y entrer par le dessin d'humour, on peut y entrer par le dessin animé, on peut y entrer par les créations télévisuelles, les créations radio même, donc le texte aussi, l'affiche, le théâtre, ses pièces de théâtre, ses travaux pour le théâtre de décorateur et de costumier, enfin de dessinateur de costumes. Après, ça reste un même esprit, on retrouve toujours la patte Topor dans ce qui est graphique et l'esprit Topor dans ce qui est conceptuel, je dirais, à la fois dans la littérature et dans le dessin.
Comment vous avez fait pour agencer tous les travaux de Topor pour imaginer une mise en scène qui soit conforme à l'esprit de Roland Topor?
Oui, c'était un peu la difficulté de cette exposition, c'était d'essayer de trouver une logique à quelque chose qui ne l'est pas, enfin, puisque Topor partait un petit peu effectivement dans tous les sens. C'était un touche-à-tout, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a une certaine cohérence dans son travail, mais il multiplie les supports, il alterne des périodes où il travaille seul avec des périodes où il travaille en groupe. Tout ce qu'il a fait pour la télévision, pour le cinéma, c'était des travaux de groupe. groupe. Il alterne des travaux de commande avec des travaux plus personnels. Donc effectivement, pour agencer le tout, cela a été assez difficile. Et on a organisé l'exposition en fonction des destinations de ces différentes productions. C'est certainement artificiel, mais ça permet tout de même, je pense, au public de se repérer dans ce foisonnement de création.
Oui, ça, le foisonnement, on le voit bien, hein, parce que c'est une riche rétrospective avec 300 affiches, des dessins originaux, des extraits de films, des extraits d'émissions télé qu'il a imaginé et produit. Et pourtant, c'est quoi le regard que vous portez sur cette période, sur cet artiste, 20 ans après sa mort, Alexandre Devaux?
Ben, moi, c'est quelqu'un que j'admire, donc je suis pas toujours, je manque un peu parfois de regard critique sur Topor, mais il me semble que c'est un génie déjà dans le sens où son œuvre n'est pas altérée par le temps et qu'elle reste juste aujourd'hui, c'est-à-dire que
il était très angoissé par le temps qui passe, par
Il pourrait l'être aujourd'hui aussi. Il pourrait être angoissé par les menaces multiples qui existent aujourd'hui. Le monde n'est pas plus tranquille aujourd'hui qu'il l'était quand il vivait. Et son œuvre étant relativement anachronique, même si elle s'inscrit par plusieurs biais dans des problématiques artistiques de son époque, elle les dépasse aussi largement. Et donc elle reste pertinente aujourd'hui.
Ouais, c'est ça qui est très intéressant avec Topor. Comment dépasser son époque sans être dépassé par elle? Justement, je vous propose, Céline Chicha, Castex et Alexandre Devaux, d'écouter une interview de Roland Topor. C'était dans les années 80. Il parlait justement de tout ce qu'on vient d'évoquer.
Je pense qu'en fait, c'est la fin du siècle. On se demande toujours de quoi sont faits les 20 ans qui viennent, qui nous amènent à l'an 2000. Je crois que ce sera l'art vieux et que tous mes copains vont pouvoir, qui ont été quand même virés un peu rapidement des préoccupations quotidiennes de nos contemporains. Je crois que ça sera un retour, un comeback. Oui, les vieux et les morts. Parce que, par exemple, si on parlait de télévision tout à l'heure, je crois que c'est un phénomène qui va s'intensifier, c'est qu'il y a de plus en plus de morts sur l'écran. Puisque rien ne se perd, rien ne se crée, surtout en télévision. Claude François est mort, dans les conditions que l'on sait, et je m'en réjouis pas. Mais heureusement, il y a quand même un truc bien, c'est qu'il passe quand même régulièrement. Tino Rossi, je suis sûr que pendant la nuit du réveillon de l'an 2000, Tino Rossi chantera Petit Papa Noël, parce que même s'il est mort, c'est pas grave, on l'a enregistré assez souvent. Donc, et si on regarde, bon, les films, ça j'en parle pas, il n'y a pas que dans les Misfits que tout le monde est mort. On voit Bourville plus souvent que Villeray quand même, ou on voit Fernandel plus souvent que les gens de maintenant. Donc plus ça va, plus les formidables archives de la planète télévisées sur les morts vont être sur le marché et d'une façon très intéressante au point de vue prix. Et je crois qu'on va avoir une télévision. Alors c'est pour ça que je crois beaucoup à cette direction. Déjà, on m'a dit qu'il y a un type qui a racheté tout Laurel et Hardy, il le fait mettre en couleur par un procédé. Et puis il va lancer ça sur le marché en refaisant les montages d'ailleurs. C'est intéressant parce que bon, le droit de l'auteur là-dedans, il en prend un coup peut-être, mais d'un autre côté, c'est du matériel qui permet qu'on joue avec. Et on va jouer de plus en plus avec. Quand vous allez voir ce qu'on va faire avec Claude François, avec Bourville et avec... Mais en attendant, on va avoir beaucoup de vieux et de morts.
Beaucoup de vieux et de morts. Et c'est pas plus mal pour faire, justement, disait Roland Topor dans cette longue et passionnante interview à Radio Nova en 1983 pour faire le bilan d'une carrière artistique.
C'est assez juste qu'il dit le fait que, lui, il avait déjà souci d'être artiste pour ne jamais mourir.
Mais on sent dans cette interview, dans les années 80, que ses amis, ceux qui l'ont accompagné, sont passés de mode, pour reprendre cette formule.
Ouais, mais parce qu'ils ont été à la mode. Et Topor, lui, n'ayant pas été à la mode, il tombe pas dans cet écueil, quoi. Comme il voulait pas jouer le jeu du système dominant et qu'il a toujours été en marge, aujourd'hui, on a la possibilité soit de le prendre en marge tel qu'il a toujours été, soit de faire une tentative, comme on a pu faire là, en l'institutionnalisant, entre guillemets, en organisant une exposition de son œuvre à la BNF. Mais on voit que ça résiste quand même. C'est intéressant de voir comment structurer cette exposition et cette diversité dans sa production, et en même temps de toujours constater qu'il y a un échec. Et c'est ça qui est sympathique, quoi, c'est que ça reste vivant.
Et pour terminer, Céline Chicha-Castex, l'impossible exposition Roland Topor, elle est quand même là.
Elle est quand même là, et puis je pense que c'est une exposition où on redécouvre Topor, parce qu'on le connaît tous un petit peu, on connaît tous, enfin les gens de ma génération par exemple connaissent tous Téléchat, mais ils ne lui attribuent pas nécessairement, on connaît tous l'affiche d'Amnesty International, on connaît tous l'affiche du temps du film.
Non mais comment vous réagissez à ce que disait Topor sur le patrimoine, qu'on peut jouer avec, alors que Alexandre Deveau disait que on peut pas justement récupérer Topor, et que cette exposition aussi riche soit c'est beaucoup plus un inventaire, une invitation à découvrir son œuvre plutôt qu'une mise en scène, une rétrospective comme on a l'habitude de les concevoir aujourd'hui.
Oui, je pense que c'est aussi une réhabilitation peut-être de son œuvre, une reconnaissance aussi des institutions qui l'ont assez peu reconnu finalement de son vivant, et c'est aussi une manière de dire il fait partie aussi de notre culture, de notre patrimoine, il est très représenté dans nos collections effectivement à la Bibliothèque nationale, et c'est aussi une manière de lui rendre hommage.
Vous l'avez connu personnellement ?
Non.
Et vous... Hélas non.
Donc vous l'avez connu que par ses œuvres ?
Oui, alors, par ses œuvres. Moi je l'ai connu par GB vivant, qui a été un très bon ami enfin, de Topor, et moi que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup appris sur Topor.
Mais comment êtes-vous venu à Topor ?
Bah, par GB. Il se trouve par un hasard, je me suis retrouvé dans la famille de GB, et vivant chez GB à une époque.
Vous avez eu la chance de croiser GB, Alexandre Deveau, mais je suis sûr que vous avez parlé de plein de choses. Pourquoi c'est Topor qui vous a plu ?
Eh ben parce que au moment où je découvre sur une étagère de GB un livre de Topor, je parle de Topor à GB, et GB m'apprend que Topor vient de mourir. Je pense qu'il était hyper affecté par la mort de Topor, que moi je connaissais très mal, et qu'il avait besoin ou envie de parler de Topor, et que... Moi, je faisais des études d'histoire de l'art à l'époque. Il fallait que je trouve un sujet de maîtrise, et que GB m'a dit « Travaille sur Topor, c'est génial », et que le prof que j'avais à l'époque, Bertrand Tillier, était aussi fan de Topor, et la combinaison des deux a fait que j'ai travaillé sur Topor, et que voilà, après, je me suis intéressé à cette œuvre. Et ensuite, j'ai rencontré le fils de Roland Topor, qui est une personne très précieuse aussi, et très sympathique, et qui a beaucoup aussi gardé de l'esprit de son père, qui est quelqu'un d'hyper créatif, d'hyper sympathique, surtout il a une sensibilité qui est hyper intéressante et qui transmet très très généreusement des informations sur des petites histoires et des grandes histoires de son père, qu'il a bien connu, puisque quand Topor est mort à 59 ans, et Nicolas devait avoir 35 ans, quoi, quelque chose comme ça. Et il a beaucoup fréquenté son père... Donc il connaissait bien la vie de son père, et il transmet ça très généreusement.
Le monde selon Topor, l'expo a lieu jusqu'au 16 juillet à la BNF, à la bibliothèque François Mitterrand à Paris, avec un beau livre coédité par la BNF et les cahiers dessinés Le monde selon Topor. Merci aux deux commissaires de cette exposition d'être passés ce matin.
Merci
Céline Chicha-Castex. Merci Alexandre Deveau.
Merci à vous.